Radio Kapi.
À la une de l'actualité ce matin sur Radio Kapi, l'opposant Martin Fayulu sonne l'alarme et appelle à un dialogue inclusif, estimant que le pays traverse l'une des crises les plus graves de son histoire et que la paix passe par la concertation nationale. Il est dit dans un message de vœux de nouvel an adressé aux Congolais publié ce mercredi. Au Sud Kivu, la Société Nationale d'Électricité dénonce des actes de sabotage à Kavumu avec le vol de plus de 3000 mètres de câbles compromettant des efforts de la lutte contre les délestages. Plus d'explications dans ce journal. À Kananga, dans le Kasaï central, l'urbanisation anarchique inquiète. Des habitations construites hors normes et favorisent la multiplication des têtes d'érosion qui menacent aujourd'hui la ville. Nous en parlons avec notre invité Crispin Mukinai, chef de la division provinciale de l'urbanisme. En ce jeudi 1er janvier 2026, recevez les vœux le plus sincère de toute la rédaction de Radio Kapi pour une année de santé, de paix et d'espérance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'opposant Martin Fayulu réitère son appel à un dialogue inclusif pour résoudre ce qu'il décrit comme l'une des crises les plus graves de son histoire que traverse actuellement la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé ce mercredi dans un message de vœux de nouvel an adressé aux Congolais et publié sur les réseaux sociaux. Martin Fayulu déplore notamment que, je cite, « les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engagent l'avenir de la RDC sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Ces accords sont opaques. Le peuple ne sait pas, le peuple n'a pas décidé. » Fin de citation. Selon lui, refuser ce dialogue reviendrait à refuser la paix. On écoute Martin Fayulu dans cet extrait proposé par Alain Runga.
Le peuple congolais a le droit de savoir. Il a le droit de décider face à cette situation. Une vérité s'impose. Rien ne changera sans le peuple. L'histoire ne se fait jamais sans lui. Et l'avenir du Congo ne se construira ni dans le silence, ni dans la peur, ni dans la division. C'est pourquoi nous le disons clairement, le dialogue national inclusif est une nécessité vitale. Refuser ce dialogue, c'est refuser la paix. Refuser ce dialogue, c'est prolonger la crise. Refuser ce dialogue, c'est engager une lourde responsabilité politique. Nous lançons également un appel ferme à la communauté internationale. Nous exigeons l'application stricte de la résolution 2773 des Nations Unies. Nous exigeons une condamnation claire du Rwanda pour les crimes commis sur le sol congolais.
À Kinshasa, la population nourrit l'espoir d'une année 2026 meilleure. La paix dans le pays, mais aussi une amélioration des conditions sociales figurent parmi les principaux vœux exprimés par les Kinois. Nos reporters les ont rencontrés hier 31 décembre dans plusieurs rues de la capitale congolaise. Luc Nzao et Josué Kefebe signent ce reportage.
La plupart des personnes interrogées reconnaissent que le pays a traversé d'importantes difficultés en 2025, notamment sur le plan social. Elles espèrent une amélioration sensible de la situation au cours de cette nouvelle année 2026. Ces messieurs implorent la grâce divine pour voir ces attentes se réaliser.
Pour l'année 2026, nous demandons au Seigneur, et à travers nos autorités, et que le Seigneur nous accorde vraiment le meilleur pour la République démocratique du Congo. Et que sur le plan social, que tout marche comme il se doit.
D'autres souhaitent que 2026 soit enfin l'année du retour de la paix dans la partie est du pays. C'est le vœu exprimé par ces Kinois.
Le plus important maintenant, c'est la paix. La paix. Ensuite, après, quand on a la paix, les autres aspects sociaux, économiques et suivants, mais maintenant la paix, que les compatriotes à l'est arrêtent de souffrir. Et que nous puissions avancer, nous tous, comme une nation.
La population kinoise rencontrée s'est dit globalement confiante et espère une année 2026 meilleure.
Nous enchaînons avec le Sud Kivu, où les populations vivant dans les zones contrôlées par le M23 dressent un bilan négatif de l'année 2025. C'est notamment le cas de celles du territoire des Kalehe. Selon un acteur de la société civile, les habitants sont devenus victimes d'enlèvements, de tueries, de pauvreté et de nombreux autres problèmes. alors que cette population semblait placer sa confiance dans les différents efforts de paix, l'année 2025 laisse un goût d'inachevé. Benjamin Mungazi plaide pour un changement de stratégie de la part des autorités congolaises afin que 2026 apporte de l'espoir et de la sérénité. Il est joint par Ronéline Tibonera.
La population remercie le bravoure et toutes les démarches du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de chercher à restaurer la paix durable à l'est du pays, ainsi qu'aux autres présidents qui lui ont emboîté le pas et fait tout ce qu'il devrait faire malgré la paix attendue n'est pas hâtée et la population restée en souffrance. Si c'est demande au chef de l'État de changer la manière de réflexion, c'est prendre en charge tant que président de la RDC, à savoir que tous ces facilitateurs en insistant sur les pays d'Amérique qu'on savait finir cette guerre et aussi n'ont pas répondu à la préoccupation ou même aux besoins de la population et être à la hauteur de ce qu'ils sont alors que nul n'est au-dessus de la loi et prendre plus la considération sur les minéraux et oublier la population qui subit chaque jour des actes inacceptables par la loi.
La Société nationale d'électricité SNEL au Sud Kivu dénonce un plan de certains inciviques visant à anéantir ses efforts dans la lutte contre le délestage dans l'agglomération de Kavumu. Nous sommes dans les territoires de Kabare. Elle indique avoir été victime du vol de plus de 3000 mètres de câbles. Plus de détails avec vous, Ronéline Tibonera.
À travers un communiqué, la SNEL précise que parmi les câbles volés figurent des conducteurs en cuivre de 50, 35, 25 et 16 mm carrés. Selon ces documents, ces câbles proviennent tous de la ligne moyenne tension du FEDER Kavumu. Les villages ayant rapporté ces actes de vol sont Bukanga avec 1500 mètres de câbles dérobés, Kacheni 900 mètres, Chireja 400 mètres, ainsi que 300 mètres volés derrière le tribunal des grandes instances de Kavumu. Les autorités locales des groupements Bougoré et Miti condamnent fermement ces actes qu'elles qualifient d'inciviques. Elles appellent à de mesures sévères contre les auteurs de ces vols. Du côté de la SNEL, l'on indique que trois des présumés voleurs sont entre les mains des services de sécurité. Parmi eux, deux sont des récélaires et un est identifié comme voleur qualifié. Pour rappel, il y a environ un mois, un présumé voleur avait été électrocuté sur un poteau de moyenne tension dans la même zone. Son corps avait été retrouvé le matin, suspendu à une dizaine de mètres du sol.
Entre-temps, à Goma, au nord Kivu, l'abattoir de Kituku tourne au ralenti. Les éleveurs et les bouchers font face à une situation inédite. Les vaches ne s'écoulent plus comme avant. Alors qu'autrefois, plus de 500 vaches se vendaient pendant les semaines des festivités, aujourd'hui, ils sont nombreux à constater que moins de 200 têtes trouvent des preneurs. Et cela dans une ville de près de 2 millions d'habitants. C'est ce que nous dit Bernard Denyangi.
Ici, au marché de Kituku, cette chute de vente est en général liée aux difficultés économiques que traverse la ville, nous disent des bouchers et acheteurs. La fermeture de l'aéroport de Goma depuis fin janvier 2025 fait que les produits ne soient plus envoyés à Kinshasa, témoignage.
Les périodes de fin d'année, nous arrivions à écouler 500 à 800 têtes de vaches la semaine. Mais ici, nous venons d'amener 200 vaches, mais nous avons la difficulté d'en écouler même 100.
Cette situation arrive malgré le prix abordable de la viande de vache au marché.
Par kilo de viande aujourd'hui, c'est 4,5 en gros. En détail, 14 000 francs congolais le kilo, le rôti est 16 000. Mais la monnaie ne circule pas. Le gros de nos clients venait de Kinshasa et qui nous achetait parfois 500 ou 100 kg d'un coup.
Ensuite, la fermeture des banques exacerbe aussi la situation, dit cet autre vendeur.
Rien ne marche du fait que l'argent ne circule pas. Nos marchandises font faillite. Le mouvement de la ville est différent par rapport à l'année passée. Plusieurs familles ont aussi quitté la ville.
Pendant ce temps, plusieurs éleveurs se disent aussi inquiétés par une recrudescence des cas de pillage de vaches par des hommes armés dans plusieurs fermes cette année en territoire de Rutshuru et de Masisi.
Par ailleurs, à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, de nombreuses habitations sont érigées en violation des normes urbanistiques en vigueur. Selon des spécialistes de l'environnement, cette situation favorise l'apparition de plusieurs têtes d'érosion qui menacent différents quartiers de la ville. Ces constructions anarchiques sont souvent implantées dans des zones inappropriées et ne disposent pas des systèmes adéquats d'évacuation des eaux de pluie. La société civile locale accuse les services de l'urbanisme de ne pas assumer pleinement sa mission d'organisation du territoire. André Katende nous en parle.
À Kananga, plusieurs maisons sont construites sans respect des normes urbanistiques. La société civile locale pointe du doigt les services de l'urbanisme censés assurer la planification de la ville. André Moujani, coordonnateur provincial du mouvement citoyen Filimbi au Kasaï central, dénonce une situation qu'il juge préoccupante.
Aujourd'hui, si vous parcourez les quatre coins de la ville, vous verrez que plusieurs sites qui étaient verts, il y a des maisons qui ont poussé. En tout cas, l'urbanisme doit faire son travail.
Pour sa part, Crispin Mukinaï, chef de la division provinciale de l'urbanisme, affirme que certains services techniques, notamment le cadastre et le CUPEC, ainsi que des autorités locales, délivrent des autorisations de bâtir sans consulter sa division.
Ils donnent des autorisations sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier. Après, il décante la situation, d'autres services vont faire. Mais actuellement, ce n'est pas ça.
Crispin Mukinaï ajoute que sa division avait envisagé d'étendre la ville en attribuant des terres dans les villages environnants. Cependant, les populations refusent de s'y installer, préférant demeurer au centre-ville. Kananga, André Katindengala Mouloumé, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, le syndicat des administratifs et enseignants du Congo SIADEC dresse un bilan mitigé de la situation socio-professionnelle des enseignants au cours de l'année 2025. La présidente de cette structure, Angèle Nkoussou, a livré cette information dans une déclaration parvenue ce mercredi à Radio Kapi. Elle cite, entre autres, le non-paiement des intervenants aux épreuves certificatives, à savoir l'examen d'État, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle et l'examen national de fin d'études primaires. Pour Angèle Nkoussou, il est temps que le gouvernement intervienne pour mettre fin aux souffrances des professionnels de la CRE. Un extrait de ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Cela fait désormais 4 ans de patience, de persévérance, d'espoir et d'efforts constants que nous avons adressé au gouvernement plusieurs revendications légitimes concernant les primes des évaluations certificatives et l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les enseignants de notre pays. Malheureusement, le gouvernement n'a pas apporté des solutions escomptées à nos revendications légitimes malgré nos démarches. Le syndicat des administratifs et enseignants du Congo a fait plusieurs correspondances aux autorités ayant le pouvoir d'action de résoudre ces problèmes, mais celles-ci n'ont jamais été prises en compte. En ce qui concerne le non-paiement des primes des évaluations certificatives, pendant que chaque année les fonds sont budgétisés et disponibilisés pour ces 10 travaux, l'amélioration des conditions de vie et la retraite cavalière des enseignants, la politique salariale qui devrait résoudre toutes ces questions, se fait toujours attendre.
Actualité internationale.
Nous sommes en Guinée. Mamadi Doumbouya a été élu président de la République avec un score de 86,72% au premier tour selon les résultats provisoires de la Direction générale des élections. Des opposants dénoncent cette présidentielle à l'image de Selou Daline Diallo. Le premier ministre actuel, qui était aussi directeur des campagnes du chef de l'État, défend lui le scrutin, accusant ses détracteurs d'être en déphasage total avec la dynamique et la volonté populaire. Et puis, la transition politique est officiellement terminée au Gabon. Toutes les institutions transitoires mises en place par les militaires après leur coup d'État du 30 août 2023 qui avait mis fin à plus d'un demi-siècle de pouvoir de la famille Bongo ont été remplacées après les élections ou par décret présidentiel. À la fin du mois de décembre, il n'y a plus une institution de transition dans le pays. Le chronogramme des sorties de la transition annoncée a donc été respecté.
L'invité.
Nous l'avons dit dans les titres, au Kasaï central, de nombreuses habitations sont construites à Kananga en violation des normes urbanistiques en vigueur. Selon des spécialistes de l'environnement, cette situation est à l'origine de plusieurs têtes d'érosion qui menacent la ville. Pour en parler, nous recevons Crispin Mukinaï, chef de la division provinciale de l'urbanisme. Il s'entretient avec André Katenegala Mouloumé.
Monsieur Crispin Mukinaï, bonjour.
Bonjour, papa.
Dites-nous un peu, selon vous, qu'est-ce qui fait que la construction anarchique puisse devenir aujourd'hui un fléau à Kananga?
Ça devient un fléau puisque les gens construisent sans pouvoir tenir les normes urbanistiques. Nous avons un service de KIPEC qui est dans l'urbanisme, mais qui ne tient pas compte de l'urbanisme, qui ne vient même pas auprès de l'urbanisme. Quand il reçoit l'argent, il autorise. On construit n'importe où. vous trouverez des maisons auprès des érosions. Mais qui vous a donné l'autorisation? C'est l'équipe. Voilà, c'est une difficulté. Nous avons décrié, nous avons demandé.
Est-ce que ce n'est pas l'urbanisme qui autorise la construction?
Non, non, c'est l'EQPEC qui autorise la construction, pas l'urbanisme.
Si on peut bien comprendre, ces autorisations sont données sans l'aval de l'urbanisme.
Effectivement, il ne passe même pas à l'urbanisme. Avant d'autoriser, il faut connaître le milieu, c'est où, ou bien il appartient à qui. Pour eux, ils visent l'argent. Or, des lieux qui ne peuvent pas être construits. Même les chefs quartiers, les chefs d'avenir commencent à donner aussi des terrains sans pouvoir passer par l'urbanisme. Il y a des concessions. Vous avez votre concession aujourd'hui. Et demain, vous mettez cette concession en parcelle. Vous devenez distributeur sans que l'urbanisme le sache. Le service de cadastre se fait responsable des terres puisqu'il devient le distributeur des terres sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier. Après, il décante la situation. D'autres services vont faire comme cadastre, affaires foncières. Mais actuellement, ce n'est pas ça. Vous êtes au bureau, vous vous attendrez que les cadastres donnent des terrains peut-être à l'engrance, sans que nous le sachions. Comment est-ce que l'urbanisme peut faire? Maintenant, pour suspendre ces travaux, par après, or, ils ont déjà des documents. C'est ça la difficulté que nous avons.
Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie des constructions anarchiques à Kananga?
Effectivement, pour arrêter cette situation, tout agent ou toute personne qui a besoin d'avoir un terrain ou de construire doit passer par l'urbanisme. L'urbanisme doit être sur terrain pour étudier encore si c'est convenable ou pas. On autorise aussi d'une manière désagréable puisque on ne tient pas compte des eaux de pluie qui viennent. Il n'y a pas de canalisation. On ne peut pas construire comme ça. Ça dépend de l'urbanisme qu'on doit commencer à travailler.
Alors, dites-nous, la ville est surpeuplée par rapport aux temps anciens. Alors, quelle solution l'urbanisme trouve pour éviter les constructions anarchiques? Parce que plus les gens sont nombreux, plus ils construisent partout.
Nous avons des terrains à Benamande, à Matamba, à Toubouloukou. Il y a des terrains que les gens peuvent construire et se mettre là-bas. Quand vous leur dites de venir ici, vous êtes venu ici, nous vous donnons un terrain, puisque là où il est, il y a une érosion. Il dit, oh, allez où? À Matamba ou à Benamande? C'est en brousse. Tous les gens là veulent venir vers toujours la ville. La ville doit être surpeuplée. Il y a des camps qu'on peut mettre des gens. Il y a des terrains, il y a des espaces à développer notre ville ici. Il faudrait qu'on songe à ça. Développer la ville, mais les gens qui y mettent, qui sont là-bas, là où ils sont, ils ne veulent pas encore quitter. Mais il y a des érosions là où ils sont. Là où ils sont aussi, près des érosions, les eaux-là n'ont pas de place à aller.
Alors, qu'est-ce qui empêche le service d'urbanisme de déguerpir ces gens-là qui sont à des endroits non appropriés?
Nous avons déjà fait des propositions. Des propositions sont faites déjà auprès de l'autorité. Si il pourra accepter, on va les déguerpir pour leur donner d'abord des places au-delà. C'est ça la situation. Une solution plus simple, c'est ça.
Monsieur Crispin Mukinaï, nous rappelons que vous êtes chef des divisions de l'urbanisme au Kasaï Central et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, papa.
Notre invité était interrogé par André Katende. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Mwana Makengo Nsoalou est coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision d'Alain Rung Mushinj. Grâce à Mzati Masanzi, je vous ai présenté ce premier journal de Radio Kapi pour cette année 2026. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de l'antenne matinale avec Jean-Marc Matoa Kimofelele Dijano.